Tu m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre sur pierre de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, excusez-moi, le public est en délire, je suis déconcentrée, on s'excuse parce qu'on a eu un peu de retard, un petit problème technique, mais tout va bien, on va réussir à faire l'émission. Et ce soir, alors que la chaleur bat des records, c'est au tour d'Hémisphère Sound de prendre les commandes du plateau en direct du Poisson Lune sur le parvis de la Porte Dorée, du Palais de la Porte Dorée. Après les copains de MapMonde, de Histoire 2 et de Lâcher les Chiens, c'était notre tour de clore ce cycle estival autour de l'exposition Paris-Londres, musique et migration. Alors ce soir, on va parler des radios libres entre Londres et Paris, des radios pirates anglaises, comme l'emblématique Radio Caroline, et des débuts de Nova, de la Sono Mondiale. Donc pour ce faire, avec nous autour de la table, l'indéboulonnable Sylvain Pinault, bonsoir.
Salut à tous.
Comment ça va Sylvain, pas trop chaud?
Ça va, j'ai chaud, mais le micro est encore plus chaud que moi, je crois. Mais ça va.
Yes. Et nous aurons également l'honneur de recevoir Sébastien Lagrave, le directeur du festival Africolor, qui sera notre témoin privilégié de cette belle époque musicale. On le remercie d'avoir accepté notre invitation, on le retrouvera plus tard sur le plateau. Tout au long de cette émission, vous retrouverez des extraits d'époque et aussi surtout les témoignages de Patrick Légoni, le fondateur de Radio Ivre, qui deviendra Radio Nova sous l'égide de Jean-François Bizot. Et le témoignage également du journaliste Patrice Van Hersel, qui n'est tout autre que l'inventeur de l'expression Sono Mondiale. Donc des propos qui ont été recueillis grâce à mon cher collègue Sylvain, à son flair journalistique et à sa pugnacité à toute épreuve. Et donc avec nous également la réalisation ce soir, Tiffen, un grand merci à toi, à la technique Léa, Swan et Hugolin, et à la coordination Alex. Mais tout de suite, musique maestro s'il vous plaît. Est-ce que vous avez reconnu ce titre, Sylvain, ici présent? Tu peux nous en dire un peu?
Ça me fait penser aux Rolling Stones, non?
Ouais. Ouais, c'était Not Fade Away. Et il se trouve que ce titre, sorti en 1964, est probablement le premier titre à avoir été diffusé sur le pont du bateau de Radio Caroline. Le bateau donc, qui s'appelait le Federica. Et ce titre qui a été diffusé par le DJ Chris Moore. Virgule.
2 bassines doublées, 3 frites.
Pour un picon bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
C'est l'apéro Radio Campus Paris. On vous propose donc de parler des radios pirates. Donc pour se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque au Royaume-Uni et de cette radio qui est certainement la plus célèbre, en tout cas une pionnière quand on parle de radio musicale, il faut savoir qu'à l'époque, les ondes radiophoniques sont sous contrôle absolu de l'État au travers de la BBC sur laquelle sont diffusés exclusivement les artistes issus des écuries géantes de EMI et des cas. Donc on entend sur la bande FM les Beatles, Maria Callas, Cliff Richard, Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou encore Sidney Bechet. Mais toute une partie de la culture pop anglo-saxonne est laissée de côté. Les petits labels indépendants en fait n'ont pas du tout leur place dans cette entreprise. Et c'est donc dans ce contexte que le jeune producteur irlandais Ronan O'Reilly décide de créer une radio pirate exclusivement musicale en s'inspirant des expériences scandinaves et danoises. Il faut savoir que dès les années 30, au XXe siècle, du coup, il y avait déjà des radios pirates qui émettaient depuis des bateaux dans la mer Baltique. Donc, notre cher Ronan achète un vieux ferry danois, le Federica, et du matériel adéquat pour émettre depuis le pont. Et donc ils émettent clandestinement depuis la mer du Nord en s'appropriant la longueur d'onde 199 sur la bande AM. Et ils vont progressivement diffuser sur tout le territoire national du Royaume-Uni à mesure que le succès de la radio grandit, notamment auprès du jeune public, grâce à des DJ issus principalement du rock'n'roll. Et puis plus tard à la fusion avec Radio Atlanta qui était dirigée par Alan Crawford. Et donc, la musique est reine 24 heures sur 24, mais il se trouve que la vie est très rude à bord sur le bateau pour les DJ, qui passent aussi 24 heures sur 24. Ils s'ennuient, ils souffrent du mal de mer, bref, c'est pas la folie. Mais pour les publicitaires, par contre, ça va devenir très très intéressant, puisqu'ils vont pouvoir commencer à négocier un espace pas plus de 6 minutes par heure, mais l'affaire s'avère réellement florissante. Néanmoins, il va falloir pour Radio Caroline entrer en résistance lorsque, en 1967, le gouvernement de Harold Wilson décide d'interdire toutes les radios pirates, et ceci même si elles émettent en dehors des eaux territoriales britanniques. S'ensuit donc, je vous passe les détails, mais une épopée rocambolesque entre arrestations, coupures d'antenne, saisies de matériel, naufrage et condamnation. Peut-être que vous avez vu le film Good Morning England, un gros classique de Richard Curtis, qui était sorti en 2009, si je ne me trompe pas, et qui s'inspire de cette folle histoire, de cette première des radios musicales, Radio Caroline.
She really is fine.
Vous écoutez Caroline, ce morceau des Fortunes, hommage à cette belle radio pirate.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Bonjour ma propre petite sœur.
Toujours en direct de Radio Campus Paris, je vous rappelle que nous sommes au Poisson Lune sur le parvis de la Porte Dorée. Chers auditeurs, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. Surtout qu'après, si l'envie vous prend de danser, Sylvain et moi-même ici présents, on sera là toute la soirée pour vous faire guincher sur des sons et des rythmiques muy caliente. Je vous parlais donc de l'épopée anglaise de Radio Caroline. Nous allons maintenant tendre l'oreille vers la France, vers Paris plus précisément, qui a vu l'émergence des radios libres relativement plus tard, à partir des années 70. Et donc Sylvain, ici présent, est allé rencontrer le fondateur de l'une d'entre elles, Radio Ivre, qui deviendra plus tard Radio Nova. Donc tout d'abord, Sylvain, est-ce que tu peux faire un petit retour historique sur le contexte, histoire qu'on sache un petit peu quelle était la situation, l'ORTF, tout ça, blablabla, dans ces années?
Bah oui, c'était assez similaire en fait à la situation anglaise. Il y avait un monopole des ondes par l'État, donc l'ORTF. Il y avait quelques radios périphériques, on appelle ça, donc c'était Europe numéro 1 à l'époque, donc en même temps Europe 1, RMC, qui émettait depuis l'extérieur, donc Radio Luxembourg, à Monte Carlo, à Monaco, donc, mais globalement c'était quand même très verrouillé. Et ça, et les radios périphériques étaient des radios commerciales, donc il y avait voilà, quand même un état d'esprit assez, assez sclérosé. Et il y a quand même l'émergence de radios pirates, donc à partir du milieu des années 70.
Donc toi, tu as rencontré l'un des fondateurs d'une des premières radios,
un des pionniers.
Patrick Légonier, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé, cette rencontre un petit peu improbable?
Ouais, donc Patrick Légonier, qui était donc un fan de reggae et qui lui commençait à bidouiller un peu fin des années 70. Et quelqu'un vient le voir pour commencer à tester les radios libres, donc à émettre de chez eux. Et donc c'était assez fou. Et il faisait partie de quelques personnes qui faisaient ça en 78. Et c'était vraiment illégal, quoi. Il pouvait se prendre une amende assez énorme et se faire embarquer par les flics. Enfin, c'était quand même un geste assez politique, en fait, de faire ça. Et donc il fallait bouger aussi l'émetteur. J'en ai parlé un peu avec lui et on va s'écouter du coup une petite interview que j'ai faite. Bon, c'est fait au téléphone, donc c'est presque en direct depuis le Pays Basque avec Patrick Légoni, un des fondateurs de Radio Ivre.
Je te raconte, alors ouais. Moi j'ai démarré Radio Ivre en novembre 1978 avec Jean-Marc Keller. Un jour il est venu me voir, il m'a dit dis donc, en chuchotant, j'ai un émetteur, est-ce que ça t'intéresse? Il lui dit un peu que ça m'intéresse, c'est génial. Alors, il m'a dit écoute, on l'a essayé une fois, on l'a appelé Radio Ivre, mais bon voilà, pour le moment on fait rien quoi.
Okay.
Donc à partir de là, on a commencé à émettre tous les week-ends. Et si tu veux, il faut imaginer que Radio France sur la bande FM s'arrêtait à minuit et qu'à minuit, la bande FM était totalement vierge.
Le gouvernement verrouille rapidement l'éclosion des radios libres en renforçant le monopole. En province, quelques dizaines de stations se maintiennent dans l'illégalité. À Paris, c'est la fin des illusions. La peur du képi, la lassitude des conflits internes et le brouillage vide la bande FM. Au début de l'année 1979, seule Radio Ivre, à l'origine 100% reggae, persiste avec panache.
Radio Ivre, la seule radio en France qui diffuse du reggae de la Jamaïque. Et bien sûr, vous êtes sur 98 MHz. Comme souvent le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi soir ou dimanche, après 22h. Au fait, si vous téléphonez aux copains, dites-leur de bien déplier les antennes.
Et on ne jouait que mes 45 tours de reggae. Sans rien dire, sauf radio. Tu vois, je voulais que ce soit ici, Londres. On était seul à l'époque sur la bande FM. Quand on a démarré, il n'y avait personne. À l'époque, si tu veux, ça ne se jouait nulle part, quoi. Mais bon, vraiment, les 45 tours roots, moi, j'étais complètement fondu de reggae. Hein.
Okay.
J'ai découvert ça en 72 par un disque d'apport de Jimmy Cliff. À partir de là, bon, je l'ai cherché partout. Et si tu veux, à l'époque, c'était très difficile d'avoir les 45 tours parce que il les tirait à très peu d'exemplaires. Disons que pour les ramener en France, c'était pas gagné, quoi. Donc,
ouais, j'imagine.
Lui donnait un mal de chien. Nous, on était, les fans étaient là à la première heure quand il revenait de Londres ou de Jamaïque, d'ailleurs. Voilà, et puis après, okay. Patrick Van Troyen nous a repérés avec, je sais pas comment il nous a trouvés. Il nous a dit, mais vous êtes fous, vous êtes les seuls à émettre, vous parlez pas. Enfin, je lui disais, bah non, on veut pas. Mm. Et puis bref, à partir de là, il est venu, revenu, et puis on a commencé à émettre petit à petit tous les jours. Bon voilà, et Radio Yves est parti. Après, sur la bande FM, il y a eu de plus en plus de monde. Là, c'est devenu, et donc en 81, c'était la folie, quoi. Il y avait beaucoup plus d'émetteurs que de places. Et du coup, bah, si tu veux, nous, on était très proche de Jean-François Bizot, le patron d'Actuel. Et parce qu'on s'était fait saisir deux fois notre émetteur, et une des deux fois, c'est Bizot qui nous l'avait racheté. Parce qu'évidemment, on n'était pas riches, nous, on fonctionnait avec un peu des bouts de ficelle. Hein. Enfin, on se démerdait bien, on changeait tous les deux jours de style, on a fait tous les toits de Paris en allant chez les auditeurs. On était parfois dans une cuisine, parfois c'était en fonction de l'accès au toit et de comment on pouvait passer les câbles. Enfin, non, c'est une aventure géniale, hein. Moi j'ai un souvenir extraordinaire. On s'est marré, on avait l'impression de faire. Moi quand il m'a proposé cet émetteur, si tu veux, le sujet qui nous intéressait, pour moi sur les radios qui existaient, on n'en parlait pas. Mm. Pour moi c'était naturel qu'on puisse exprimer autre chose que le faisait Radio Luxembourg, Europe numéro 1 et France Inter, quoi. Il n'y avait que ça comme radio. Hein.
Ouais. Bon.
Donc moi, pour moi, c'était complètement vide et il y avait vraiment de la place pour ce que nous, on était en train de vivre musicalement et culturellement. Donc voilà, ça m'a paru naturel, donc on a démarré Pirate comme...
Pas de panique, nous sommes en plein raccordement, mais ça s'arrangera, ça s'arrangera, ça s'arrangera. Ne vous inquiétez pas, nous y arriverons. On nous a coupé le courant. On nous a coupé le courant, c'est dégueulasse, c'est injuste. Ah là 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 là. Je vais devoir interrompre l'émission quelques instants pour aller bricoler. Surtout, ne nous quittez pas. Nous allons repartir bientôt. Ah là 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 là. Nous avions disjoncté partout, et bien c'est reparti.
La bricole totale.
C'est reparti. La bricole, on connaît ça aussi à Radio Campus. Qui d'ailleurs, Radio Campus était aussi une des premières radios libres en 69, mais voilà, qui a commencé à Lille. Donc voilà, on était pionniers.
Et ouais.
Et donc voilà, la bricole, l'improvisation, la passion, c'est ça les radios libres à l'époque. Donc Radio Libre, voilà, ça avait l'air assez dingue comme aventure. Du coup, on reçoit là avec nous Sébastien Lagrave qui nous a rejoint sur le plateau.
Bonjour.
Vous avez connu un peu cette époque-là, des radios libres. Comment est-ce que vous l'avez vécu et qu'est-ce que ça permettait en fait comme expression
On est passé, vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé d'un monde en noir et blanc avec l'ORTF à un monde en couleur et on a vu arriver dans nos postes avec le kshh comme ça de la bande FM, on a vu arriver en 80 une ouverture sur le son, sur tous les sons du monde. Et surtout, ce que ça a été pour nous, c'est que ça a été il y a eu la question de la musique, mais aussi des heures et des heures de débats, de discussions, parce que ces radios-là, il n'y avait pas de grille, il n'y avait pas, et donc il y avait un sentiment de libération de la parole, des nuits entières, etc. Alors qu'effectivement, avant, à minuit, il n'y avait plus rien. La France dormait, la France se taisait, ouais. Il ne se passait plus rien. La troisième chose que ça nous a permis, c'est qu'à l'époque, on avait des radios cassettes. Et donc, on passait des heures à l'affût. On passait des heures à l'affût de telles chansons qui passaient à la radio. Et là, on appuyait sur l'enregistrement de la cassette. Et tac, on pouvait enregistrer sur la cassette. Et c'est ce qu'on a appelé la copie privée. Et parce qu'on faisait une copie privée pour nous. Et nos playlists de l'époque, c'était à l'affût pendant toute la nuit de la chanson qu'on voulait avoir. Et c'est la première fois qu'on pouvait avoir de la musique chez nous, pour nous, en fait.
Gratuite.
Et gratuite, voilà. Oui. Voilà.
Donc c'était le premier streaming YouTube de l'époque.
C'est ça.
Et sans indiscrétion, vous aviez quel âge, vous, quand c'est arrivé ça
Moi, j'avais 13 ans. Hein, ah c'est
ouais.
ça ouais.
Donc c'est le début où on commence tous à écouter un petit peu la radio.
C'est ça. Ouais.
On se cache un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je me cachais ouais. pour pas que mes parents
ouais, pareil. Et moi, j'écoutais Skyrock.
Bah oui, pareil.
C'est ouais. moins glorieux quand même que Radio Ivre. Mais à cette époque, ouais, en 81, on voit une myriade de gens occuper les ondes avec même des gens qui se volent les fréquences. Donc au-delà des brouillages, il y avait aussi des gens qui se volaient les fréquences entre eux. Donc on pouvait écouter une autre radio d'un coup. Il y avait voilà, une sorte de piraterie qui avait lieu ouais, à partir de 80, donc c'est la libération des ondes suite à l'élection de Mitterrand qui a vite voilà, été...
C'est une de ses promesses de campagne.
Ça. Mais qui était aussi hein, qui faisait débat au sein du Parti Socialiste parce que les socialistes avaient créé une radio, mais d'autres membres du parti avec peur que les membres de, enfin, les partis de droite utilisent les radios. Donc, ce qui a aussi eu lieu avec des radios comme Radio Courtoisie. Mais bon, c'était assez minoritaire. Mais voilà. Donc il y avait quand même eu un débat. C'était pas non plus unanimité, quoi. Mais bon, en 80, on arrive à, voilà, avec une bande FM assez saturée. Je pense que ça devait être. Je sais plus combien il y avait de fréquences, mais c'était assez énorme.
Et il n'y avait pas de publicité du tout. Il n'était pas question de mettre de la publicité. Enfin, on peut comparer l'arrivée des radios libres à l'arrivée de l'Internet les 6 premiers mois. C'est-à-dire, on se dit, tiens, espace du possible, les radios libres, c'était pareil. Vraiment. Un espace de liberté totale.
Ouais. Et je ne sais pas exactement comment ils se finançaient. En tout cas, en Angleterre, il y avait une grosse, grosse pratique du pot de vin. C'est-à-dire que les producteurs, les petits labels glissaient un petit billet à l'intérieur du disque pour être diffusé, parce qu'après, l'enjeu, c'était forcément de vendre énormément de disques. Donc, je ne sais pas du tout si vous avez des informations sur comment ça se passait en France. Mais
ouais, je ne sais pas. Je sais que Patrick Léoni galérait un peu pour retrouver ses disques. Mais je pense que personne ne le payait pour jouer les disques. C'était du reggae, voilà, des 45 tours jamaïcains. Je pense qu'il n'y avait pas cette industrie qu'on retrouvait dans la pop anglaise. Mais peut-être, peut-être. Ouais.
Mais après,
je vais enquêter voilà. sur les billets dans les pochettes.
Peut-être que ça a toujours lieu, on ne sait ça. Pas.
Et donc, 80.
En tout cas, pas à Radio Campus Paris.
Ouais, non, pas encore. On reçoit les disques quand même, de temps en temps. Merci Youssef d'ailleurs, il nous écoute peut-être pour son disque. Et donc 80, c'est la réparation de Radio Nova, donc lancée l'initiative de Jean-François Bizot, donc grand mécène, gourou, journaliste, intellectuel,
voilà,
tout ça, et fan de musique,
et Bizot.
Et donc lui, il lance Nova quelques mois avant la libération des ondes, parce qu'il a été en contact avec Mitterrand à l'époque, donc il savait que les radios allaient s'ouvrir. Et donc, il sent un peu le flair. Et donc, il se lie avec Radio Ivre. Donc, et donc, Patrick Lédény, qu'on a écouté juste avant. Donc, eux, ils étaient 850. Bizot, il était à 3 ou 4 avec des anciens de France Culture qui venaient de la création radiophonique. Donc, on va écouter le journaliste Patrice Van Hersel, que j'ai rencontré hier, nous parler de ce lancement et de ce son Nova si typique et de voilà, cet ovni de l'époque. C'est parti.
Moi, une des rares choses que j'ai comprises de ce que Bizot voulait faire avec Radio Nova, c'est que, bon, on était par principe pour les radios libres. Ça, on s'était battu, on avait défendu quelqu'un comme Antoine Lefébure, qui est un garçon qui avait monté une revue qui s'appelait Interférence dans les années 70 et qui réclamait la liberté des ondes. Et or, c'était totalement interdit. Et les quelques audacieux, même téméraires, qui montaient un émetteur radio quelque part, devaient vite se carapater.
Oui, parce changer que, d'endroit.
Changer d'endroit sans arrêt, parce que la police les repérait, ils étaient arrêtés, c'était interdit. C'était, donc, réclamer en soi le droit d'émettre était considéré comme progressiste, comme subversif, etc. Et donc, ça, on était pour ça. Quel que soit, à la limite, le projet derrière une radio X ou Y. Et puis, donc, Bizot se dit, Mitterrand est arrivé au pouvoir, bon, je lance une radio, tant pis. Ils ne vont pas oser l'interdire. Mais il l'a fait plusieurs mois avant que le décret sorte. Et donc, quand après Radio Nova existe, ben, il est obligé de respecter... Il y avait une loi qui oblige à respecter un énorme pourcentage de musique française dans le cadre de la défense de la culture française, pas être envahi par les anglo-saxons. Et Jean-François, là, de manière très, très rusée, dit « Mais Mais les musiques en Algérie, ils parlent français. En Afrique, alors pas fait là. Là, ça marche pas. Lui, il parle en anglais, enfin en pidgin. Mais les musiques du Congo, les musiques de Côte d'Ivoire, les musiques du Sénégal, les musiques du Mali, les musiques de toute l'Afrique francophone, mais c'est francophone. Donc ça passe. Et donc, il réussit à ne pas être obligé de servir de la soupe. Enfin, de la soupe, il y a des très bonnes musiques de variété française. Mais si vous êtes obligé de couvrir 70% dans une radio qui était très musicale.
Oui.
Après, il y a eu des émissions où on tchatche, mais c'est quand même de la musique avant tout. Et où est-ce que vous la trouvez, la musique francophone? Eh bien, vous la trouvez dans la francophonie. Mmh. Et ça, ça a été très original parce que ça n'existait pas ailleurs. Radio Nova a diffusé tout ça dans son grand mix. Mais là, c'est vrai que quelqu'un comme Patrick Légoni ou Loïc Durie, vous en parlerez bien mieux que moi, parce que eux, c'était vraiment eux le son de Radio Nova, et qui était un son au début très, très, très expérimental, au point qu'on n'était pas sûr que c'était exactement de la musique. C'est presque des trucs à la façon Schaeffer et autres chercheurs de l'IRCAM.
Ouais.
C'est presque des sons étranges. On dit, mais c'est quoi? C'est des extraterrestres? C'est quoi? Le son Nova, au début, il était hyper original.
I francesi spesso per dire d'accord, d'accord, dic, dac, dac, dic, 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 dac, d'accord, dic, 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 dac, dac, dic, 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 dac, dac, dic, 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 dac. Dik dik dak dak duk 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 dik 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 duk 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 dik 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 duk duk dik dak dik duk dak 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 duk 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 dik dik duk duk dak 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 duk 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 dik duk duk dik dik dak duk 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 dik dik duk duk dak dak duk duk dik dak duk duk dak d'accord d'accord d'accord.
Change de beat. Change de beat. Change de beat. Change de beat.
Ben non, justement, ils sont par... parce que là, c'est plutôt un amalgame.
Radio Nova.
Radio Nova, Radio Ivre, je veux dire, c'est une question de... on ne sait pas très bien ce que c'est une sorte de bouillie. Ou de bouillon.
Dic, dac, dac.
On peut dire, alors, à ce moment-là, c'est comme un concerto pour piano où il y a un chef d'orchestre et un pianiste et que chacun tire à soi la couverture. Et que finalement, on ne sait pas très bien si...
D'accord.
Mais on n'aurait pas le courage de le dire aussi clairement. Mais... cela dit...
D'accord.
Ah ben oui, mais... Non, mais de toute façon... Mais... Non, mais... Pourquoi? Alors... Il y a un outsider, là. Mais justement, de Ivre. Alors, je sais pas, peut-être qu'il peut ajouter quelque chose.
D'accord, d'accord, d'accord.
Ben, on est en train de parler de l'amalgame de Radio Nova et de Ivre, mais je veux dire... Les gens auront compris, je veux dire que... Radio Nova, Radio Ivre, Radio Nova, Radio Ivre, oui, et puis alors Non, je veux dire qu'ils auront compris, je veux dire que vous allez... Les gens... Ils écouteront cela et puis après ils vont tourner le bouton et ils tomberont, je sais pas, sur Dieu sait quoi, sur France Musique. Ça serait catastrophique quand même. Ce n'est pas France Musique.
C'était donc les allumés de Radio Nova au début. Donc moitié Ivre, moitié Nova, moitié France Culture. Enfin,
certainement un petit peu sous influence de substances.
Et donc voilà.
On l'entend un petit peu. Hein.
Des jingles de 5 minutes, quoi. Tout va bien. Et donc, je sais pas, c'est.
Mais qui entrecoupe du coup une programmation musicale, comme il le dit très bien, issue des musiques francophones majoritairement du monde entier, du zouk.
Ouais. Et donc, c'est ce qu'on va. On va commencer à parler de ça ensuite. C'est la sono mondiale.
La fameuse.
Donc, la radio qui tend son micro au monde, en fait. Et donc qui donne la parole à tout le monde, et avec un point de vue un peu différent de celui qu'on avait avant. Sébastien, vous avez écouté Nova à l'époque, peut-être un peu.
Oui.
Au début.
Oui, oui. Pas que.
Comment
mais oui,
comment c'est ça voilà quelle place il avait, en fait, quelle, cette radio avait dans le, par rapport au reste. Alors, comment c'est arrivé, en fait?
Nova était la plus fameuse des radios, mais il y avait quelques radios comme ça, alors qui apparaissaient, qui disparaissaient. Enfin, dans les débuts, il y a eu, on voyait apparaître sur une fréquence, tiens, il y a des gens qui parlent. Ah bon, il y a une nouvelle radio, puis dès quelques mois après, elle disparaissait. Donc c'était hyper instable pendant 2 ans. Et surtout, là, ce qu'on voit, ce qu'on a entendu de Nova, en fait, c'était assez habituel. Ouais. Au sens où l'improvisation, le fait qu'il n'y ait pas de grille, n'y avait pas à lancer des intros de musique sur lesquelles on parlait, ce genre de choses qui sont devenues des conventions radiophoniques. Ça n'existait pas du tout, en fait, parce qu'ils n'étaient pas tenus par des horaires, par un journal, par un certain nombre de choses. Et donc, c'était des lieux d'improvisation à tous les endroits. Voilà, et même des morceaux qui pouvaient durer 20 minutes. Voilà, effectivement, la musique expérimentale. Alors maintenant, c'est à France Musique qui en a, la musique expérimentale, à 2h du matin. Mais à l'époque, effectivement, il y avait des choses comme ça où il n'y avait pas ce formatage de départ, radio, justement.
Ou des morceaux de Fela Kuti de 25 minutes.
Ouais, voilà, ça pouvait passer.
Injouable en radio, normalement. Ouais.
Voilà.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Radio Nova a bien évolué vers un formatage très les morceaux de 3 minutes, mais qui garde quand même une certaine originalité dans leurs propos, leur style journalistique. Mmh. Et c'est dans l'esprit du manifeste. C'est une radio qui est très liée, on le rappelle, au journal actuel, qui à l'époque est la référence des musiques underground.
Ouais,
tu vas mieux en parler que moi, puisque t'as plein de, tu fais un peu la collecte des.
Ouais, des journaux actuels. J'ai une petite collecte, j'en ai 3 ou 4. Ouais. Et mon père en avait plein, mais on sait pas où ils sont, donc.
Ouais, c'était grand-mère qui les a fait disparaître.
Ouais, voilà, c'était trop subversif. Je sais pas. Mais oui, c'était vraiment un foyer, en fait, de contre-culture. Et les journalistes d'actuels, donc Patrice Von Arcel, qu'on vient d'écouter, ils étaient toujours à l'affût de ce qui se passait, de quelque chose de nouveau, d'intéressant, de subversif, de. Voilà,
on pourrait comparer cette forme journalistique à ce qu'on appelle le gonzo journalisme aujourd'hui, comme Vice ou des médias qui parlent à la première personne, qui sont très dans le ressenti, dans le.
C'est ça. Qui raconte le reportage, en fait.
Ouais. Et qui ont une prise de position politique aussi, qu'on peut pas nier, quoi.
Il y a notamment un reportage fameux de Patrice Von Arcel à Lagos, où il part pour enquêter sur la piraterie. Et Bizot l'appelle en disant y a un mec là-bas qui fait de la musique cool, fait la couti, essaie d'aller le voir. Et il se retrouve, du coup, à la Calcutta République, avec le seul blanc. En immersion dans cette république un peu folle avec toutes les femmes de Fela, et ils deviennent amis. Et c'était le genre de reportage qui, lui, raconte à la première personne, il raconte ses galères aussi. Et que je pense que c'était quelque chose qu'on voyait assez peu, en fait. Sur les grands reportages à Paris Match et tout, c'était pas du tout ça, quoi.
Vous aviez une petite rubrique sur les musiques noires à Libération.
Oui, voilà.
Elle est arrivée, c'était les journalistes qui étaient un peu cousins.
Avec Philippe Conrad.
Oui, avec Philippe, par exemple, et d'autres. Oui.
Qu'on a reçu
puis,
aussi.
Et il est vrai que dans ces couves, justement, actuelles, étaient beaucoup plus tranchants sur ces visuels, etc. Mmh. Et puis, dans le défrichage et découverte, moi, j'ai un souvenir d'un numéro d'actuel, le premier article sur Catherine Ringer, l'Hérita, c'est, 1983, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Et c'est, on découvre ce personnage. Voilà, c'est fait partie des choses incroyables.
C'est ça, des défricheurs.
Ouais.
Et on va réécouter une petite interview avec Patrice Von Arcel où on parle de cette fameuse Sono Mondiale qui est un peu le tampon, la signature de Radio Nova. Et qu'il a inventé ou créé ce mot-là en 83, donc pour un numéro d'actuel, c'est une chronique pour les jours meilleurs. Donc dans un climat un peu de. Suite à l'élection de Mitterrand, à partir de 83, il y a un peu un revirement.
La rigueur.
Et donc un désenchantement aussi de toute la gauche et de la jeunesse intellectuelle. Mmh. Et donc là, eux, ils se disent, on reste quand même optimiste et on a envie de faire des choses. Et donc voilà, il y a une sorte de numéro assez dingue à lire, un manifeste. Et lui, il invente le mot la Sono Mondiale. Donc je l'ai rencontré hier, qui est en face, à Saint-Maur-les-Fossés. Et il habite en fait à côté du manoir qu'occupait la rédaction d'Actuel avant, qui était donc chez Jean-François Bizot. Et ça avait l'air d'être un joyeux bordel, comme on dit, dans cette maison. On écoute tout de suite Patrice Von Arcel.
Et qu'à Actuel, de toute façon, on ne travaillait pas sans musique. On était en musique en permanence. Il y avait de la musique partout. C'était, et comme ici, dans cette maison que vous voyez, on travaillait jour et nuit. parce qu'on était des... On avait défendu le droit à la paresse de Paul Lafargue,
ah oui.
mais en fait, on était des workaholics fous. Des
60 heures.
Et on travaillait des 60 heures de suite sans problème. Ouais, 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 ouais.
Parce que pour préciser, du coup, on est vraiment devant l'ancienne maison. On la voit de la fenêtre. Parce que là, vous.
Maintenant, j'habite dans les annexes. Ouais. Donc la sono mondiale, ça me vient au moment des jours meilleurs. Quand. Jean-François Bizot demande à chacun des membres de l'équipe d'Actuel, qui était en train d'écrire des reportages divers et variés sur comment changer le monde, il demande à chacun une sorte de note que lui va pouvoir ensuite intégrer à une vaste synthèse qui est la cover story du numéro donc de juin 83. Et moi, dans ma note, ça me vient comme ça en disant « mais on écoute des musiques de partout ». Celle d'Afrique, plus que tout. Et donc, dans ma note de synthèse, je dis à Bizot, en fait, nous sommes en train de vivre une sono mondiale. Et ça lui plaît bien.
Donc là, et donc, il a accroché.
Et contrairement à ce qu'on dit dans le Wikipédia sur la world music, c'est pas du tout que la world music existait déjà et que nous, on a traduit ça sous forme de sono mondiale. La sono mondiale, c'était pas une entreprise commerciale, c'était une entreprise politique et culturelle, c'était l'idée que notre idéal était un métissage à tous les niveaux, c'est métissage au sens propre, physique, que les races se mélangent, que les cultures se mélangent, que les... Nous, on était persuadés que, alors vraiment à l'extrême inverse de ce que peuvent balancer des extrémistes de droite à notre époque qui quelquefois, sincèrement, pensent que c'est la fin de l'humanité si les cultures se mélangent. Mais nous, on était persuadés, et on l'est toujours, que les cultures, elles naissent du choc entre les cultures, des rencontres de cultures. Une culture qui est les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, comme dit Brassens, c'est étouffant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités, mais les spécificités, la néganthropie, ce qui restructure l'homogénéisation générale de tout que nous impose notamment le marché. Enfin, le marché capitaliste, il essaie de tout homogénéiser, mais la vie elle-même, elle est là pour rendre hétérogène et redifférenciée en permanence. Ou alors, il n'y a plus de vie. Mais nous, ce qu'on voyait de la musique africaine, de la musique arabe, donc en particulier oranaise, le raï, qui est une musique absolument géniale, dansante, qui révolutionnaire par rapport à la tradition sur place, parce que Oran est une ville révolutionnaire.
Oui, voilà.
Allô ? Oui, on est toujours à l'apéro sur Radio Campus Paris. Si vous nous rejoignez sur le 93.9, nous parlons radio libre et sono mondial avec à l'instant la voix de Patrick Van Hersel.
Patrice, pardon,
j'ai du mal avec les Patrice et les Patrick. On le remercie en tout cas pour cette superbe interview. Je pense qu'on essaiera de vous diffuser
une version longue.
Elle est très longue.
Et notamment l'histoire de Fela qui me raconte, et voilà, je pense que ça mérite le coup d'être partagé.
Ouais, il y a sûrement il y a matière à faire avec cette interview.
En film aussi bientôt en préparation.
Et donc je me tourne à nouveau vers vous, Sébastien Lagrave. Je rappelle que vous êtes directeur du festival Africolor, un festival qui est un petit peu, on s'est dit, dans cet esprit de ce manifeste de la sono mondiale, qui a été créé à l'époque par Philippe Conrad. C'était en quelle année? C'était dans les années
1989.
Ouais, 89. Donc c'est la même période en fait. Et est-ce que pour vous aujourd'hui, le festival s'inscrit toujours dans cette perspective humaniste et de mélange, de métissage?
Alors, la perspective humaniste, oui. Maintenant, je pense qu'on a changé. On a changé d'époque. On a changé. Je vais employer un mot affreux. On a changé de paradigme, comme on dit. Je pense que quand quand Actuel est né, quand on est en 1983, les radios libres, on voit bien qu'on est dans une époque, et on l'entendait dans ce que disait Patrick Van Hersel, c'est la pensée de la différence, c'est-à-dire l'acceptation de la différence, le droit à la différence, le métissage, c'est le moment de SOS Racisme, le grand concert de la Concorde en 1984, les concerts du Band Aid où on voit... Sting, Peter Gabriel, Johnny Clegg, aller à Abidjan, aller à Lagos, faire des grands concerts à Londres, à New York, et c'est ça. Donc on n'est plus sur, à ce moment-là, dans les années 80, dans une pensée des rapports Nord-Sud qui soit une pensée, je dirais, politique, on est dans une pensée de la différence. C'est un peu, c'est la petite nuance que je fais. Et entre les années 80 et maintenant, je pense que On a assisté à la dégénérescence marketing de la sono mondiale. C'est-à-dire que là, c'était très bien dit. C'est-à-dire l'idée de la sono mondiale, elle était politique. Ensuite, on est passé à la world music. La world music est devenue un argument à vendre dans les bacs et un peu à la fin de ce que pouvaient porter les musiques qui venaient de nos quartiers d'ici, Rock Against the Police. Les musiques de Londres, etc., à la fin de ce qu'elles portaient politiquement dans la reconnaissance des immigrés, leurs enfants, à des musiques qui petit à petit apparaissaient comme des musiques d'ailleurs, des musiques exotiques, et qui sont arrivées dans un son qui petit à petit était venu un peu fusion dans les années 90-2000, etc. Et c'est chouette, l'Afrique, ça nous fait danser, avec des caricatures télévisuelles.
Avec des arrangements aussi
Qui sont petit à petit devenus un peu standardisés, et on a oublié ce qui était porté dans les années 80 à la fois par Actuel, Bizos, qui était porté aussi par tous ces mouvements des années 80, par la Mash Deber, qui était que ces musiques, et par quelqu'un qui s'appelle Rachita, qui disait je suis un rocker, je suis un rebelle, je fais pas des musiques pour plaire, etc., je suis là pour dénoncer la saloperie du monde. Et donc je pense que entre maintenant et cette époque là il y a eu cette marchandisation. Nous à Africolor, on s'inscrit complètement dans cette histoire humaniste, mais on a eu à défaire cette marchandisation, à la déconstruire, à passer à une autre époque aussi des musiques africaines au sens large, à retravailler, à faire entendre leur caractère politique avec d'autres auteurs, avec d'autres artistes, avec des rappeurs, avec le nouveau hip-hop du continent. Et c'est à travers ça qu'on a bougé, en tout cas. Voilà.
Et vous nous disiez d'ailleurs, hors antenne, que pour vous, le moment, un moment clé, un moment fort de cette prise de conscience, ça a été forcément l'apartheid.
Oui, alors pour moi, j'allais dire, en tant qu'adolescent, mon adolescence, elle tourne autour des Special Zaka. C'est le Free Nelson Mandela, qui est un hymne qu'on avait dans les oreilles tous les jours, etc. Et ça a été cette mobilisation autour de la libération de Nelson Mandela qui a fait que, petit à petit, moi, je me suis promené dans toutes ces musiques. Alors, c'était le plus connu, c'était Johnny Clegg, mais il y avait tout ce mouvement qui reliait les musiques du ska, auquel j'étais très attaché, londonien, qui venait du Steady Beat et des Caraïbes, et qui reliait ça aux musiques d'Afrique du Sud, et qui fait que nous, on s'inscrivait dans cette appartenance politique-là. Ma première expérience au commissariat de police, ça a été avec ça, puisque on a tagué ça sur le lycée, et les flics nous ont arrêtés à l'époque, en 86. Et puis le flic qui est sorti de la voiture a dit: mais c'est qui ce Nelson Mandela? Alors là, on a du boulot encore. Oui, voilà.
À l'époque, c'était vraiment...
ouais, quelle histoire.
Révélation.
On a eu notre dossier de la journée.
Voilà, c'est ça.
Mais à l'époque, c'était vraiment politique. Il y avait une démarche, une revendication. Même dans la scène mondiale, pour moi, c'était pas le tampon world music. Et alors que, comme disait Van Hersel, il y a sur Wikipédia, il est dit que la scène mondiale, c'est la traduction de world music. Alors qu'ils l'ont inventé avant l'apparition.
Oui, complètement. Je crois que c'est pas du tout synonyme.
C'est ça.
Donc, oui, il y a une mainmise de l'industrie musicale, du marketing sur les musiques du monde entier. Et
donc ils voulaient d'ailleurs changer la page Wikipédia. Si quelqu'un s'y connaît, il m'en a parlé. Donc,
voilà. Je pense que à partir du moment où certains grands artistes, connus internationalement, comme Peter Gabriel, Paul Simon, a tout à coup invite sur un ou deux morceaux des grands chanteurs africains type Youssou N'Dour, etc., les industriels se sont dit: ah, là il y a un truc, on y va. Et c'est le moment où ça bascule, et là ils créent la world.
Clairement. Mais dans les années 80, il y avait aussi déjà cette fusion, mais qui était un peu qui venait de la racine en fait. Et il y a des groupes comme Relema, Woody Bango qui a fait un album comme Electric Africa et plein de productions qui sont hyper visionnaires, genre presque hip-hop. Et donc il y a beaucoup de choses qui sortent, enfin qui sont pas encore dans cette marketing fusion, oui, et qui sont super, super intéressantes. King Chani Adé aussi, qui étaient voilà, des productions quand même très, très électriques, avec beaucoup de synthé.
Et Paris comme Londres étaient aussi des centres névralgiques de la production musicale, ouais, studios, et permettaient un accès à des technologies aussi, des rencontres qui sont favorisées par des acteurs dont on vient parler. Par contre, enfin, par exemple, c'était Van Hersel qui te racontait que Relema avait été hébergé par Bizot.
Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, l'interview qu'on a fait hier, c'était dans l'appartement de Relema, enfin où elle
était. L'ancien appartement où il a été accueilli avec sa famille. Enfin, ouais. Il y avait une mise en réseau et une mise en production, enfin une mise en, j'ai envie de dire en onde, mais c'est pas ça.
En bande, tu vois, à l'époque.
Ouais, voilà. Et c'est permis aussi par un accès plus. Plus développé à la technologie à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, on est dans des situations où il n'y a plus cette bipolarité ou tripolarité Paris, Londres, New York. On a des centres qui se développent de partout. Ouais.
Lagos, Abidjan, qui sont vraiment des cœurs, et la production est faite là-bas. Et même des gens comme Beyoncé vont là-bas pour trouver des producteurs intéressants. Donc, c'est vrai qu'on est, je pense, dans la sono mondiale au sens... Alors je pense que ça marche quand même bien aujourd'hui, ce terme, même si c'est daté. Dans la psychologie, dans l'approche, il y a quelque chose que je retrouve.
Tu as été séduit par le concept.
Ouais, par le manifeste.
C'est très séduisant meilleur. Comme concept.
Oui, c'est vrai. Je vais même aller plus loin. Il y a un documentaire de Philippe Conrad, justement le fondateur d'Africolor, qui l'a tourné en 88, qui s'appelle Paris, c'est l'Afrique, et qui rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que tous les artistes à ce moment-là n'avait aucun problème de visa, donc il pouvait venir habiter 6 mois ici. Et Alpha Blondie, au début du film, dit « Mais Paris, c'est un arrondissement d'Abidjan. » Et il a tout dit. C'est-à-dire que pour eux, ils viennent ici, ils habitent ici, ils font leur album, ils retournent, ils reviennent. C'est valable pour Salif, c'est valable pour tous les grands de l'époque. Maintenant, aucun... Excusez-moi, oui. Ouais.
Parce qu'on parle entre nous, mais il y a des auditeurs.
C'est vrai, Kunda,
maintenant, avec les difficultés de visa, avec les vexations... même si on dit que économiquement, pour un petit milieu, et je mets plein de guillemets à ça, des musiques du monde, il y a un marché ici, je pense que notre pays, notre petit continent européen, est en décrochage par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ici ce qui se passe à Lagos en termes de production, ce qui se passe au Kenya, ce qui se passe en Afrique du Sud. Une chanteuse comme Yemi Alade, voilà, ici en France, elle a fait... un petit concert il y a un an, c'est 100 millions de vues sur YouTube. C'est une star absolument continentale, etc. Les deux danseurs de tous les clips de Beyoncé viennent du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Les twins qu'on voit dans ce documentaire, c'est pas en France qui vient les chercher. Et donc oui, effectivement, je pense que la France, Paris, n'est plus une route artistique et n'est plus un passage obligé. Et je pense qu'on est en train de devenir un tiers-monde artistique de ce point de vue-là.
Et du coup, le rôle du festival Africolor, dans ce sens-là, c'est de montrer
c'est d'essayer d'éviter le décrochage.
De rester à la page un peu.
Oui, mais je crois que nous, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on a pris, le pari qu'on mettrait le nom Afri et Color dans notre nom il y a 30 ans, on a une responsabilité, c'est justement de ne pas figer l'image du continent ici. Et donc, dans le récit... qu'on entend du continent, c'est pas à nous de faire le récit du continent, c'est nous à l'écouter et à le transcrire, on a une responsabilité. Et donc, de pas se figer dans l'Afrique calebasse, même si il y a des très beaux joueurs de kora, il y a des très belles, ce que j'appelle la très belle musique classique africaine. Par contre, la musique électro, maintenant, c'est un phénomène continental absolument incroyable. Et donc, voilà, mon idée, moi, c'est d'intégrer toutes ces musiques-là pour que les gens ici se disent « Waouh, il se passe un truc au niveau mondial, dans cette sono mondiale de maintenant ». Et il faut absolument qu'on s'y raccroche, quoi. Voilà.
Clairement. Okay. Et on avait un morceau emblématique de cette scène parisienne.
Avec Philippe Conrad à la production et Martin Messonnier, que vous connaissez bien aussi.
Oui.
Et pas mal d'autres gens. J'ai pas le vinyle avec moi, je l'ai juste chez moi. C'est Tam Tam pour l'Éthiopie. Un projet mené par le grand Manu Dibango en soutien à l'Éthiopie à l'époque. Ouais. Et avec Touré Kunda, Relema. King Chaniade et encore plein de gens.
Et Manu Dibango, il a commencé comme clavier de Dick Rivers.
Ah ouais ?
Très très drôle. Et quand il raconte son arrivée en France, c'est.
Ah, j'avais jamais entendu ça.
Clavier de Dick Rivers. Voilà.
Et voilà, donc très, bah, beaucoup de beau monde. Donc là, on va écouter la part 2 de ce disque Tam Tam pour l'Éthiopie, sorti en 84.
Latin and Kiria, Je suis chanteur des ambassadeurs. Je m'appelle Sabrita, je viens du Mali.
Ouais, je m'appelle Sam Bango. Je suis leader du groupe Mbamina. Bon, mais voilà, nous sommes en train justement de faire un disque avec le musicien africain pour pouvoir donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas, bien que nous n'en avons pas.
Ousmane Touré, musicien de Touré Tonda, chanteur, percussionniste. Sirou Tigan.
Donc nous écoutions Tam Tam pour l'Ethiopie, enfin, l'album s'appelle comme
non, c'est
ça.
C'est un EP. Ouais. Il y a
un EP.
Ouais, c'est un 45 tours mais en 33. Il y a juste une piste en deux parties. Quoi.
Donc avec tous les pontes.
En soutien pour l'Ethiopie à l'époque. Mmh. Et tous les bénéfices étaient reversés à l'Ethiopie.
Avec Manu Dibango, Relema, les Touré Kunda et toute la fine équipe de la Sono Mondiale parisienne de l'époque.
C'est ça, ouais.
Et c'est déjà l'heure de rendre l'antenne, figurez-vous. Mais je vous rassure, nous poursuivons la soirée ensemble au Poisson Lune, puisque nous allons maintenant nous diriger sur la piste de danse pour un B2B Hemisphere Sound épique qui vous
Sono
promet
mondial.
Encore plus de sueur et encore plus de chaleur. Heureusement qu'il y a de la bière. Donc merci à Radio Campus Paris de nous avoir fait confiance pour ce plateau, à Patrick Légoni et non Patrice Légoni et Patrick non. Van Hersel, je vais
l'inverse.
Y arriver, c'est
non.
L'inverse. Bon, bon, Monsieur Légoni et Monsieur Van Hersel,
ils se reconnaîtront
pour leur témoignage passionnant. Un oui. Grand merci à vous Sébastien Lagrave qui nous a affronté le soleil et la chaleur pour partager ce plateau. Merci à Alex à la coordination, à Tiffen à la réalisation, à Hugolin, Léa et Swan pour leur précieuse aide à la technique. Et un bisou aux collègues de MapMonde, histoire de lâcher les chiens. On vous dit à bientôt sur Radio Campus pour un nouvel épisode d'Hemisphère Sound.
Un petit bisou à Alexandre aussi, le Uber.
Ah oui, un bisou, on lui a promis.
Sans lui, on
nous
serait
écoute.
Pas là.
Ouais,
on
serait arrivé très 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 en retard dans les bouchons voilà. De Paris. Okay. Et à tout de suite sur la piste de danse pour les plus aguerris. Bisous à vous et merci cher public.
Bisous.
Salut.